Graines du Monde, Institut Vavilov, avec Mario Del Curto.
Je vais faire une petite introduction avant de parler de l'Institut Vavilov, qui est la plus ancienne banque de graines au monde. Pourquoi d'abord l'Institut Vavilov? En fait, à l'origine, c'est un projet qui est né d'une suite à une exposition que j'avais faite en Suisse, à la maison d'ailleurs, à Yverdon, qui s'appelait Monde Miroir, et avec son directeur de l'époque, qui à présent dirige le lieu unique à Nantes, Patrick Guiguer, on voulait faire un travail sur les jardins utopiques, mais les jardins extraordinaires du début 20e et 19e siècle. Et c'est au moment où était inaugurée la banque de graines à Svalbard. Et il y avait une communication absolument science-fictionnelle qui nous interpellait. On se demandait comment, par rapport à ce projet qui était extrêmement poétique, on pouvait amener une autre dimension dans le projet. Et pour moi, c'était le début de nombreuses lectures. Et juste après, en parlant avec un ami, Charles Souberan, il m'a parlé de l'Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg. C'était en 2011, je crois. Et il y avait de fortes menaces sur l'Institut de Saint-Pétersbourg, notamment sur des stations de recherche qui sont proches de Saint-Pétersbourg, à Pavlovsk et à Pushkin, parce que des promoteurs immobiliers avaient des visées sur les terres pour développer de l'immobilier de luxe. Et suite à une intervention du monde scientifique international et des scientifiques russes, le gouvernement russe a donné les terres finalement à l'Institut et les stations ne sont plus menacées par la promotion, par les promoteurs immobiliers. Quand j'ai appris à la fois ce danger sur les stations de recherche, à la fois l'existence de l'Institut que je ne connaissais pas Vavilov non plus, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est un inconnu, je crois, pour beaucoup en Occident, inconnu du monde scientifique souvent. Moi, dans le travail que j'ai développé depuis de nombreuses années, j'ai rencontré beaucoup de scientifiques et d'agronomes, et quelquefois, je rencontre des agronomes ou des botanistes qui connaissent Vavilov, mais d'une façon générale, il y a un vrai mur entre l'Occident et l'Est et la Russie. En 2012, j'ai fait un premier voyage à l'Institut Vavilov, et là, quand j'ai appris que dans leur réserve, dans leur collection de graines, ils avaient 50 000 variétés de blé, j'ai vraiment été absolument interpellé, choqué et séduit aussi, parce que jamais j'aurais imaginé qu'il puisse exister sur notre terre 50 000 variétés de blé. Et ce qui m'a aussi beaucoup interpellé, c'est que ces variétés de blé, c'est pas uniquement des blés entre guillemets naturels, sauvages, c'est des croisements. Donc quelque part, c'est le génie des hommes, c'est la science qui a permis, à travers les croisements, de développer toutes ces variétés, de les adapter aux différentes conditions climatiques, géographiques, locales, à ces spécificités. Voilà, donc l'Institut Vavilov, qui faisait partie de ce projet un peu plus large sur la relation, enfin même beaucoup plus large sur la relation entre l'homme et les plantes, entre l'homme et le végétal, que j'ai appelé Voyage Vert, Vert, V-E-R-S, j'en ai fait en fait une entité qui vit toute seule, qui est spécifique et qui a donné lieu au livre Les Graines du Monde. Ensuite, un autre ouvrage se fera qui s'appellera Voyage Vert cette fois et qui traitera de l'ensemble du projet. Avant l'Institut Vavilov, et l'Institut Vavilov inclus dans ce grand projet, il y a un travail photographique, il y a une approche photographique. En fait, je me suis limité à montrer ce que l'œil voit. Je n'ai pas fait de macro-photo, de photographie scientifique. Et je suis parti un peu de l'origine, c'est-à-dire au départ, la Terre se forme, un micro-organisme existe, et ce micro-organisme va se séparer en fait entre ce qui sera la biosynthèse, la photosynthèse, le monde végétal et le monde humain, le monde des mammifères. Et donc, il y a trois premières, quelques images qui sont emblématiques de ce travail. Donc, c'est une première vue d'avion de la Sibérie, qui est un paysage encore intact où il n'y a quasi aucune trace humaine. Et là, on arrive sur une photo de fossile qui est un peu pour illustrer le moment où il y a un peu cette séparation entre un fossile qui a l'air végétal, mais en fait qui est animal. Fossile de 160 millions d'années et où il y a déjà en fait des formes très très élaborées de vie sur la planète. Et après, dans la réflexion sur ce travail aussi, c'est le moment où l'homme quitte son statut de chasseur-cueilleur pour se sédentariser. Il est obligé de dessiner l'espace pour se protéger des prédateurs et des plantes invasives. Et le fait de dessiner l'espace, en fait, je pense que c'est le, début de la notion de propriété privée. Et à l'intérieur de ce carré ou de ce rectangle dessiné, pour pouvoir cultiver, on est obligé d'avoir un savoir. Et le savoir est toujours un pouvoir. Et en fait, je crois que la propriété privée, le savoir et le pouvoir ont quand même été trois des facteurs très très déterminants, en plus de l'autorité, hélas, du développement de l'humanité jusqu'à nos jours. Donc j'ai abordé aussi, ça c'est une image qui est prise au Val Camonica en Italie, qui représente le premier plan cadastral qu'on connaisse d'une gravure rupestre, qui est datée à peu près de 4 à 5 000 ans avant notre ère. Et là, sur l'origine des plantes, c'est l'image au Pamir d'une aiguilope qui est à l'origine du blé, dont on connaît pas encore, dont aujourd'hui on serait incapable de refaire vraiment le blé qui est issu d'un croisement entre l'aiguilope et une graminée. Et ces aiguilopes poussent à l'état sauvage. Dans certaines stations de recherche de l'Institut Vavilov, ils ont 27 variétés d'aiguilopes qu'ils utilisent à la fois pour faire des recherches, mais aussi pour conserver le maximum de variétés de façon entre guillemets naturelle, c'est-à-dire qu'elles sont conservées en étant régénérées dans les champs et en essayant aussi de préserver sur place des endroits pour pas qu'il y ait trop d'interventions humaines dans les endroits où l'aiguilope pousse à l'état sauvage. Voilà, ça c'est les endroits d'origine d'une partie des céréales au Pamir, où le blé pousse jusqu'à 3200, 3400 mètres d'altitude dans des zones qui sont extrêmement dures, extrêmement arides. Et par rapport à Vavilov, on reviendra après sur l'Institut de façon plus développée et plus précise. Là, c'est une image des forêts de pommiers sauvages au Kazakhstan, où l'origine de la pomme se trouve dans les forêts qui entourent Almaty, depuis Almaty jusqu'aux frontières de la Chine, où on retrouve encore sur des centaines et des centaines d'hectares des forêts de pommiers sauvages avec à peu près 600 espèces de pommes sauvages, dont 140 ont été sauvées par Djungeyev, qui était un scientifique et botaniste kazakh, que Vavilov avait rencontré et qui a développé un institut de pomologie à Almaty, au Kazakhstan. Et il a recensé 140 variétés de pommes qui sont régénérées, cultivées dans des vergers à Almaty. Centre d'origine, c'est des choses qui sont assez passionnantes dans le sens où la pomme naît dans cette région et ensuite, par les courants d'air, par les déplacements des animaux, par les rivières, par les vents, petit à petit, les pommiers se déplacent, s'adaptent aux conditions locales. Il y a aussi beaucoup d'échanges humains qui se passent depuis fort longtemps, avec des échanges de fruits, de graines, de différentes choses. Et petit à petit, les pommes recouvrent une partie des zones qui peuvent accueillir dans leur climat les pommiers. Almaty, et au Kazakhstan, il y a des menaces assez graves sur les forêts. D'une part, d'une façon générale, la sauvegarde de la mémoire génétique des plantes alimentaires et autres, c'est pas une grande préoccupation du monde politique. Et ces forêts devraient être vraiment préservées, non seulement de contamination ou de destruction, mais aussi par des... il commence à y avoir pas mal de petites propriétés qui s'installent dans ces magnifiques vallons et qui plantent leurs propres variétés de pommes et qui sont des pommiers hybrides et qui se mélangent petit à petit avec les pommiers sauvages dans ces montagnes. Évidemment, c'est immense, il y a encore des endroits qui sont intacts, mais c'est sûr qu'une action au niveau gouvernemental, au niveau mondial, serait extrêmement importante pour préserver ces variétés. Parce qu'à l'intérieur de ces variétés, en fait, on peut trouver des gènes qui permettraient de cultiver aujourd'hui des variétés de pommes qui pourraient croître sans pesticides et sans apports chimiques et qui seraient résistantes aux maladies. D'ailleurs, quand on visite, quand on a la chance de visiter ces forêts, on se rend compte que sur les arbres, la plupart des pommes sont... parfaitement belle, parfois des petites taches, mais d'une façon générale, on ne voit pas de pourriture, de moisissure, de champignons. C'est des pommes assez, assez belles et souvent très très bonnes. Voilà. Ensuite, on va quitter Vavilov, mais c'est parce que moi je suis toujours un peu désobéissant. Et au cours de mes voyages, j'ai pu rencontrer dans les... J'ai visité pas mal d'endroits sur la planète, pas tous, mais pas mal. Et au Pérou, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Anco, qui est un paysan péruvien qui vit à peu près à 200 km de Cusco dans les Andes, à 4800 mètres d'altitude. Et sans l'aide d'ONG, sans l'aide de gouvernement, tout seul, par passion. Ils cultivent 380 variétés de pommes de terre primitives. Et comme vous le savez, c'est un endroit extrêmement dur, hein, 4800 mètres, c'est le sommet du Mont Blanc. Donc des conditions assez, assez difficiles. C'est un endroit où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau téléphonie mobile, il n'y a pas de moteur. Enfin, tout le travail se fait. On peut dire que c'est à peu près les mêmes systèmes de culture que pendant la période Inca. Et Julio Anco, avec sa femme, est obligé chaque année, comme je vais dire, comme vous le savez, c'est que les pommes de terre, elles germent, donc on est obligé chaque année de les replanter. C'est pas comme une graine de blé où on ferait sauter une année, 2 ans ou 3 ans, et elle garderait sa fertilité. Donc ça veut dire que chaque année, il faut planter des pommes de terre, faut les surveiller, faut les re-récolter, faut les identifier, faut les classer, et faire tout ce travail de préservation. Et il le fait avec l'aide de ses deux fils et de sa femme, jour après jour, dans ces montagnes assez extrêmes. Et il vit avec quelques cochons qui sont dans un enclos à côté de la ferme et à côté de la culture de pommes de terre. Il a un élevage de lama et un élevage d'alpaga. Donc là, on voit sur le fond les zones dessinées, c'est des champs de pommes de terre qui ont été cultivés cette année, qui ont été arrachés. Et comme dans ce fond de vallée, il y a juste quelques familles qui vivent, c'est une vallée immense, il arrive à faire une rotation de 7 ans par rapport aux différents espaces qui sont cultivés. Ce qui veut dire que tous les ans aussi, c'est une nouvelle terre qu'il faut retourner, parce qu'après cette année, elle se recouvre d'herbe. Et là, on voit sous l'herbe sèche, c'est à l'extérieur, c'est une partie de la réserve de pommes de terre. Et dans la petite maison, c'est l'endroit où sont conservées toute la collection de ces pommes de terre. Donc voilà, c'est un petit échantillon de certaines variétés de pommes de terre qu'on a coupées pour illustrer comment l'intérieur peut être différent. Et les saveurs des pommes de terre sont aussi différentes que les couleurs sur sa collection de pommes de terre. Et ça, c'est à côté de ça, il a aussi une collection de oca. Évidemment, à cette altitude, 2-3 fois par jour, il y a une pause pour mâcher de la coca qui est bienvenue, parce que 4800 mètres, l'oxygène est rare et c'est assez fatigant et assez essoufflant. Et ça, c'est une autre spécialité qu'on mangeait quelquefois, c'est des couis, c'est des cochons d'Inde qui vivent dans la cuisine en liberté. Et de temps en temps, on en prend un, on lui tord le cou, et il l'emballe dans du papier, il le cuit dans la terre, et c'est la viande pour le repas du soir ou parfois du matin aussi. Parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de supermarchés ou de boucheries ou de petits commerçants tout près. Donc la nourriture de base, c'est la viande d'alpaga qui est absolument délicieuse. De temps en temps, du porc et puis les cochons d'Inde pour les invités ou à des occasions. Parce que c'est vraiment un repas traditionnel. Là, on voit les outils qu'il utilise pour cultiver les pommes de terre. Donc ils sont des outils où il y a du fer, mais tout le reste est fixé à l'aide de lanières en cuir. Donc c'est les mêmes instruments qui étaient utilisés par les Incas. Et ça, c'est une chose assez intéressante au niveau du développement d'un savoir agricole. Parce que comme les pommes de terre germent, la difficulté, c'est la conservation des pommes de terre. Et comme quand l'homme s'est sédentarisé, il est devenu dépendant de ses propres cultures, il faut trouver des moyens pour conserver des aliments. Et là, j'ai absolument aucune idée de l'origine de cette technique, mais il y a certaines variétés de pommes de terre qui sont étendues sur le sol pendant 15 jours, à une période particulière de l'année où la température, la journée est assez douce, environ 20 degrés, 24 degrés, et la nuit, un léger gel à moins 2, moins 3, et les pommes de terre sont foulées. Et ensuite, on les laisse encore reposer un moment sur le sol. Et après ça, on les met dans des sacs. Et pendant 8 jours, elles sont plongées dans un ruisseau d'eau froide. Et après ces 8 jours, on les sort, on les étale à nouveau sur le sol. Et on les laisse sécher au soleil. Ce qui fait que les pommes de terre, prennent un aspect un peu gris, comme de la pierre, et c'est des pommes de terre qu'on peut conserver pendant 3-4 ans. Je pense que c'est une façon naturelle de lyophiliser les pommes de terre. Et sans doute que fouler, ça permet d'extraire l'amidon, et je pense qu'autour, c'est l'amidon qui s'est formé comme couche protectrice de la pomme de terre. Voilà, donc ça, c'est une partie des collections de Anko dans la grange. Et voilà, Anko et sa femme. Voilà. Et ça, c'est les pommes de terre foulées avant qu'elles soient mises dans des sacs et ensuite plongées dans l'eau froide d'un ruisseau. Voilà pour Anko. Et à présent, Vavilov. Donc, Nikolaï Vavilov, c'est un chemin de vie absolument extraordinaire. Nikolaï Vavilov naît en 1887 à Moscou. Son grand-père était paysan. Et à la fin de ses études secondaires, il a envie d'avoir une vie utile. Et il hésite dans ses études entre médecine, agronomie et génétique. Et comme en Russie, et dans pas mal d'endroits aussi, on l'oublie un peu, mais l'Europe aussi était sujette à des grandes famines avec des populations décimées par centaines de milliers souvent, et voire plus, il aimerait résoudre en fait les problèmes de sécurité alimentaire en Union soviétique. Et il se dit, mais pour ça, il faut absolument que j'étudie, que je choisisse agronomie et génétique. Et son idée, son intuition première, qui naît très très vite, c'est de se dire, il faut trouver des plantes qui sont adaptées aux conditions climatiques locales. Et très rapidement, au cours de ses études et après, il pense et il trouve que pour développer des nouvelles variétés de plantes alimentaires résistantes aux différentes conditions climatiques, il faut absolument partir des plantes mères, des plantes les plus anciennes, qui ont le potentiel génétique pour faire des variétés qui seront adaptées aux nouvelles conditions géographiques locales. Parce que dans la génétique, hein, comme vous savez, on ne peut pas aller en arrière, on est toujours obligé pour développer une nouvelle variété, de reprendre les plantes mères et les plantes anciennes pour pouvoir redévelopper des nouvelles variétés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur certaines variétés, quand on dépend à 80% d'une variété, si elle disparaît, ça veut dire qu'il peut y avoir 80% de maïs qui manque et qui ne sera plus là pour nourrir l'humanité, qu'on ne pourra pas refaire si on n'a pas sauvegardé les plantes mères qui sont à l'origine des variétés actuelles. Et ce qui est valable pour les plantes alimentaires, en fait, valable pour toutes les plantes, parce que chaque plante a son propre potentiel de molécules qui, une fois, pourra résoudre un problème qu'on ne connaît pas encore. Mais chaque plante qui disparaît, c'est un potentiel de connaissance, un potentiel génétique qui disparaît et qui empêchera peut-être une fois de trouver une solution à quelque chose. Pourquoi c'est si petit ? Ah, mais. Ah, excusez-moi, c'est moi qui dois grandir. Excusez-moi, je n'avais pas vu que l'image était si petite avant. Donc, je reprends, voilà. Donc, ça, c'est Nikolaï Vavilov. Et là, on se retrouve à l'Institut à Saint-Pétersbourg. Ah ben avant, non, mais je vais vous dire quand même, Vavilov, un peu sa vie. Là, moi, je saute du coq à l'âne, excusez-moi. Donc, Nikolaï Vavilov, après ses études, donc choisit agronomie et génétique et se forme auprès des grands scientifiques et généticiens du début du siècle. Et fort de son intuition, il fait une première expédition en 1916 au Pamir. Et c'est là qu'il découvre des variétés très anciennes d'orge et de céréales. Et dès lors, il n'aura cesse de développer des expéditions sur tous les continents pour essayer de trouver les zones d'origine des plantes alimentaires, et il en déterminera 7 sur la planète, 7 endroits différents où on peut retrouver l'origine des cucurbitacées, des céréales, du maïs, des pommes de terre et d'un certain nombre aussi de fruitiers. Et Vavilov est soutenu par Lénine. En 1924, à la mort de Lénine, Staline arrive au pouvoir. et grande dissension parce que dans la pensée matérialiste dogmatique, la génétique, on s'en méfie beaucoup parce que on pense que c'est que les conditions extérieures qui vont faire l'homme nouveau et qui feront les plantes nouvelles et pas du tout les conditions internes à la vie et à l'individu et à la plante qui peuvent déterminer des nouvelles choses. Donc, grande dissension idéologique entre Vavilov et Staline, mais grande dissension aussi entre un autre agronomiste important qui est Lysenko. Et on accusera en 1930 et de plus en plus fort de Vavilov d'être à l'origine de la catastrophe des plans quinquennaux en Union soviétique et des problèmes aussi d'alimentation en Union soviétique à cette époque. Et en 1940, lors d'une expédition en Ukraine, Vavilov est arrêté, on l'emprisonne pas très loin de son domicile. Il est condamné à mort. Et Vavilov demande que sa condamnation à mort soit reportée pour qu'il puisse écrire un dernier livre. On lui accorde ce sursis, mais en 1943, il meurt de faim dans les prisons de Staline. Et il faudra attendre, je crois, 1955, sous Khrouchtchev, pour qu'il y ait une réhabilitation de Vavilov et de son travail. Mais cette réhabilitation a été faite, je dirais, de façon formelle. Mais par contre, le mur qui existait entre le milieu scientifique, entre Vavilov et l'Occident, lié à cette grande séparation, hein, ce grand mur entre l'Est et l'Ouest, et en plus aussi, je pense, par rapport à des fois la suffisance occidentale par rapport à la connaissance d'autres pays et d'autres cultures, fait que Vavilov est resté méconnu, en fait, dans le reste du monde. Et y compris en Union soviétique, c'est vraiment dans les milieux, je dirais, agronomiques spécialisés que Vavilov a une reconnaissance. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Et tant mieux, parce qu'on se rend compte que la sauvegarde de la mémoire génétique des plantes, c'est quand même la sauvegarde de l'avenir alimentaire de la planète. Voilà, donc là, balade dans l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg. Juste sur cette image, ça c'est une partie de la banque de graines, la partie du blé. Donc les variétés sont conservées, je dirais, dans des conditions un peu d'appartement. Hein. C'est un immeuble où il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas d'isolation spéciale. La seule chose qu'ils ont dû faire, c'est de conserver les graines dans des boîtes en métal pour éviter qu'elles soient mangées par les rongeurs. Et ce qu'il faut dire aussi de l'Institut Vavilov, c'est un institut qui fait un travail absolument remarquable parce que 50 000 variétés de blé, c'est des variétés qui doivent être régénérées. Et pour Vavilov et l'Institut qui perpétue sa pensée, le meilleur moyen de conserver les plantes cultivées, c'est de les conserver dans les champs et de régénérer les collections. Et que la méthode scientifique de cryogénisation, de congélation, c'est quelque chose qui est important, mais c'est quelque chose qui est annexe en fait à la chose essentielle qui est la conservation en champ. Et pour les plantes naturelles, leur position, c'est de dire la conservation, c'est dans le milieu naturel que les plantes sont le mieux conservées quand ce n'est pas des plantes cultivées. Mais l'Institut Vavilov, c'est 1032 ou 1050 employés environ. C'est un gros institut qui centralise les graines à Saint-Pétersbourg. Toutes les graines qui viennent des stations sont dupliquées dans les stations et l'autre partie arrive à Saint-Pétersbourg. Et pour 1050 ou 1100 à peu près employés, c'est un budget de 8 300 000 euros par année pour les 12 stations de recherche, pour les salaires, pour l'achat de matériel, pour l'abonnement à des revues, enfin pour tout, quoi. Donc c'est des salaires de misère. Moi j'ai rencontré un vieil agronome qui a développé une nouvelle variété de seigle qui possède 150% de protéines en plus et il gagne 200 euros par mois, quoi. Et pour vivre de façon plus ou moins normale, il faudrait plutôt en avoir entre 800 et 1200. Donc là, ça c'est le département des aiguillopes. On voit les conditions de travail. Et là, toutes les graines d'aiguillopes sont stockées. Et à présent, ils n'ont plus les moyens d'expérimenter jusqu'au bout l'aiguillope, jusqu'aux années 80-85. Ils arrivaient encore uniquement avec les différentes variétés d'aiguillope de faire de la farine et panifier l'aiguillope pour étudier la différence entre une panification avec l'aiguillope et une panification avec certaines variétés de blé. Et à partir de là, ils pouvaient aussi se dire « Ah, mais un pain d'aiguillope, il a ses caractéristiques qu'on pourrait amener dans une variété de blé pour pouvoir faire un pain qui peut être plus souple, qui se conserve mieux ou qui est plus aérien ou qui se garde plus longtemps. Enfin, toutes ces choses-là étaient étudiées jusqu'à la panification. C'était donc pas que la conservation de la graine pour elle-même, c'était aussi pour son utilisation pratique et concrète dans l'alimentation. Donc un autre aspect aussi qui commence d'être un tout petit peu développé à l'Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg, c'est la cryogénisation, donc c'est conservation de bourgeons et de parties de plantes dans de l'azote à moins 172 degrés. Ah oui, 196 ? Moins 196, oui. Ouais, voilà. Et là, derrière partie de la collection de maïs, devant les graines de maïs arrivent des stations dans ces sachets avec des étiquettes qui sont écrites à la main. Tout est répertorié dans des cahiers. Il n'y a presque aucune activité qui est informatisée à présent. Ça commence, mais une grande partie, tout le travail se fait à la main. Il y a des cahiers absolument incroyables qui datent des années 20-30, où il y a toutes les observations notées. Et l'observation notée est aussi une observation, enfin, c'est ce qu'on appelle de l'observation, c'est-à-dire qu'on regarde une fraise, sa couleur, sa texture, on compte le nombre de graines, on compte comment elle a poussé. Toutes ces choses sont notées, et chaque année, il y a une observation qui est faite plante après plante. Et quand on pense qu'il y a 50 000 variétés de blé, et que tous les 7 ans, ils doivent régénérer les graines, ça veut dire que chaque année, il y a à peu près 7 000 variétés de blé qui sont plantées en champ. Ça veut dire qu'elles sont identifiées à la sortie de la banque de graines, elles sont identifiées dans le champ, elles sont observées dans le champ. Il y a 7000 variétés qui sont annotées et observées dans le champ, et ensuite ces graines sont récoltées. On prend évidemment les plus gros épis, comme on le fait dans les centres de sélection en agronomie. Et après, il y a des tests de stérilité qui sont faits en laboratoire pour savoir si ces variétés anciennes qui sont régénérées ont encore un pouvoir fertilisant ou pas. Et toutes ces choses sont, enfin, tout ce travail est fait encore manuellement aujourd'hui. Quoi. C'est absolument fantastique. Quoi. Parce que c'est un travail répétitif, mais c'est un travail d'une très 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 grande rigueur. Et voilà, ça, cette dame est la responsable de la collection de maïs. Et un des autres problèmes pour l'Institut Vavilov aussi, là on voit une stagiaire, mais la plupart du personnel de l'Institut Vavilov sont des personnes âgées, parce que les conditions sont tellement mauvais, enfin les conditions salariales sont tellement mauvaises que des jeunes gagnent plus d'argent en vendant des jeans dans les rues branchées des capitales que de faire un travail passionnant en agronomie où ils sont limite survie, et surtout dans les endroits où ils se retrouvent parfois sans famille parce qu'ils travaillent dans des stations qui sont complètement décentralisées, avec 152 euros par mois, c'est extrêmement difficile de vivre. Mais l'autre chose qui est absolument formidable, c'est que en fait l'esprit de Vavilov imprègne encore complètement tous les travailleurs de l'Institut, tous les scientifiques. Et c'est sûr que de travailler dans ces conditions-là, il faut avoir un sens profond de la mission. Et si cette mission n'est pas remplie, ça veut dire que la collection de graines, elle sera rapidement fichue, quoi, perdue. Voilà, donc là, c'est les tests de germination. Identification des blés, donc à partir de chacune de ces petites coupoles, on les place dans du sable. Et ensuite, on étudie chaque grain, comment il gère, mais on garde on sélectionne en fait les meilleures graines à partir de tous ces tests. Et à la fin du test, on remet dans les sachets les meilleures graines et des meilleurs épis. Donc là, on fait un petit saut à Mekop, qui est dans le Sud-Caucase, qui possède une très très grande collection de pommiers. Et cette dame, à 84 ans, continue de s'occuper de la collection de pommiers. Ça fait plus de 60 ans qu'elle étudie les pommiers, plus de 60 ans qu'elle note dans son cahier ses observations, ses études de pommes. Voilà, c'est dans ces carnets que les notes sont prises. Les graines sont aussi sont aussi faites dans les stations pour les légumes. Hein. Donc on garde les légumes en hiver, au printemps on le repousse. Certains légumes restent en terre pendant l'hiver, donc on regarde aussi la différence de fertilité d'un légume pour faire les graines, si on l'a sorti, mis en cave et replanté, ou si on l'a laissé en terre et qu'il germe à nouveau naturellement, s'il a résisté au gel ou pas, à l'humidité, aux pluies. Et tout ce travail est fait vraiment de façon très pratique, très concrète. C'est vu dans les laboratoires, toujours à Maikop. Donc là, à Maikop, quand j'ai visité la station, les isolateurs de pollen, qui sont ces tissus qu'on place autour des céréales pour éviter les contaminations, ils n'avaient plus les moyens d'en acheter. Et pour une partie des colzas, ils ont utilisé les isolateurs de l'année précédente qu'ils ont dû recoudre et qui étaient tachés, qui étaient vraiment en très très mauvais état. Et je pense que en Russie, ces isolateurs de tissus, ça devait représenter quelque chose comme 300-400 euros. Mais une station qui fait un travail aussi important n'a même pas les moyens d'avoir ce budget supplémentaire pour pouvoir avoir un matériel correct pour faire le travail. Donc là, on est dans une autre station à Krimsk. Krimsk est une station un tout petit peu à part. Voilà, on fait des sauts. Hein. Un tout petit peu à part dans le sens où Krimsk font un énorme travail sur le fruitier, et ils ont développé aussi un commerce qui fonctionne assez bien avec l'Occident. À présent, avec les sanctions, ils ne peuvent plus commercer et vendre leur plan d'art fruitier en Occident. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les sanctions, il y a une dynamisation de l'agriculture soviétique assez incroyable. Et qu'il y a aussi à présent des nouvelles orientations dans l'agriculture russe qui ont été prises il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a une attention qui se développe pour l'agriculture biologique. Il y a 42 millions d'hectares de terres fertiles qui ne sont pas cultivées. Et on commence de voir des très 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 grandes exploitations en Union soviétique, en Russie, pardon, qui sont de type biologique. Donc là, on fait un petit saut en arrière. Donc là, c'est, vous voyez, tout le travail se fait manuellement. Plantation des graines à la station de Pushkin, près de Saint-Pétersbourg. Et on voit toutes les étiquettes qui sont à chaque fois une variété différente de plantes. Et les râteaux sont fabriqués sur place. Hein, c'est vraiment un système minimum de dépenses pour le maximum d'efficacité. Et là, c'est une doctorante qui est responsable d'une partie des collections de blé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'Institut Vavilov, la séparation entre le scientifique et le jardinier ou l'agriculteur, elle ne se fait pas. Souvent, c'est le scientifique, c'est le chercheur qui va planter sa graine, qui va observer, qui discute avec l'agriculteur, qui discute avec le jardinier. Et il n'y a pas cette coupure qui est un peu assez généralisée à présent dans le développement de l'économie général, y compris dans d'autres secteurs en Russie, il y a cette fraction qui se passe aussi. Donc là, on voit les boîtes sont sorties des collections, posées au bout des champs avec tout l'étiquetage. Et pour ceux qui font du jardin, quand on a déjà 7-8 variétés dans son jardin, c'est pas simple, mais quand il y en a 400, 500, 2000, c'est encore un autre problème. Et en plus, quand il y en a 2000, c'est d'autres personnes qui doivent travailler. Donc ça nécessite un échange, une coordination, des discussions absolument permanentes. Là, travail sur les légumes dans les serres aussi à Pushkin, la plantation des choux. Voilà, là c'est le monsieur qui a développé cette nouvelle variété de seigle, et à 84 ans, c'est encore lui qui va planter les graines de seigle, qui observe, et il y a une connaissance absolument extraordinaire. Il est capable, quand la plante a quelques centimètres, de dire ça c'est cette variété, elle sera comme ça, ça c'est une autre variété. Et honnêtement, moi je voyais vraiment aucune différence entre les feuilles et tout, mais il y a plus de 60 ans d'expérience, d'expérimentation et de connaissance. Donc, étude aussi dans les différentes stations de recherche, étude assez complète. Étude aussi, hélas, qui était abandonnée parce qu'ils n'ont plus les moyens. Mais tout le travail d'étude sur les insectes, les insectes pollinisateurs favorables, les insectes nuisibles, tous les insectes étaient étudiés. Et d'année en année, et avec des observations, et avec l'introduction aussi d'insectes qui étaient favorable aux cultures, qui est introduite dans les différentes cultures. Et là, c'est les petits restes très nostalgiques dans certaines stations. Ici, c'est dans la station d'Apatiti, qui est au-delà du cercle polaire. Elle est à peu près 100 km au sud de Mourmansk. Et c'est une station absolument incroyable, hein, parce qu'on est au-delà du cercle polaire. C'est 60 jours par année sans gel. Et il y a les tentatives d'adapter des céréales qui résistent aux conditions climatiques du Grand Nord. Ils ont réussi à développer des variétés de cassis, de groseilliers qui résistent au froid et qui arrivent à maturité, et des fraises aussi qui arrivent à maturité en 2 mois à peu près. Il y a des céréales parfois, de l'avoine, qui arrivent aussi à maturité en 2 mois. Ça dépend un peu des années. Quelquefois c'est impossible, parfois ils arrivent justement à faire des récoltes. Et ce qui m'a aussi beaucoup interpellé, c'est que ce que nous on peut appeler quelquefois des mauvaises herbes, hein, comme le chiendent ou certaines graminées, sont introduites là-bas parce qu'évidemment il y a des gens qui habitent et ces gens il faut qu'ils mangent et c'est quand même beaucoup plus facile si on peut nourrir du bétail pour avoir du lait, de la viande avec la nourriture locale, avec de l'herbe locale, plutôt que d'importer du sud. Donc ils essaient d'adapter du chiendent, ils essaient d'adapter des graminées aussi dans ces conditions climatiques extrêmes. Conditions climatiques extrêmes, mais conditions économiques extrêmes aussi. Ça, c'est les restes des grandes serres qui sont toutes fichues, tous les verres sont cassés, les chauffages ne fonctionnent plus. Ils arrivent encore à chauffer certaines serres en enfouissant du fumier à 30 cm de profondeur en automne. Et ensuite, avec la fermentation, il y a une température qui descend peut-être plus qu'à moins 5 ou moins 6 en surface, et plus du tout comme avant, enfin comme s'il n'y avait pas ce fumier qui serait, je pense, à moins 30 ou moins 40. Et Apatiti, c'est un des grands endroits de régénération de la collection de pommes de terre de l'Institut Vavilov. J'ai de la peine quelquefois à savoir les chiffres exacts, parce que sur qui on parle, certains disent qu'il y a 3980 variétés de pommes de terre à Apatiti, certains disent 4500, d'autres 3600. Mais je dirais qu'il y a entre 3600 et 4500 variétés de pommes de terre qui sont cultivées à Apatiti. Il y a des pommes de terre sauvages aussi, et il y a des pommes de terre continentales qui sont cultivées dans cette région. Et ça, c'est l'endroit où est stockée la collection de pommes de terre. Donc c'est aussi des locaux qui sont vétustes, très humides, avec un éclairage minimal, avec quasi aucune isolation. Et les conditions sont vraiment extrêmement dures dans cet endroit. Oui, donc là, on retrouve la station de Krims, qui travaille beaucoup aussi sur la fraise. Moi, quand j'y suis allé, le travail sur la fraise, il y avait à peu près 200 variétés de fraises qui étaient plantées, et les plantations étaient faites en butte, sans butte pour certaines variétés, avec du plastique noir, sans plastique noir, avec irrigation, sans irrigation, et en fonction de ces 6 ou 7 différentes zones de terrain, zones de culture, les études étaient faites sur chaque variété pour savoir quelle était la différence de production, de forme de chaque fraise. Donc là, c'est tout le travail qui est fait aussi par rapport, par rapport aux arbres fruitiers. C'est à peu près, je crois que c'est 4 millions à peu près d'arbres fruitiers qui sont produits chaque année et qui sont greffés sur des plants de cognassiers ou d'autres fruitiers pour développer et fournir des paysans du coin ou des entrepreneurs du coin qui ont des grandes cultures de pommiers. Mais avant, ils fournissaient aussi ces plants en Espagne, en France, en Suisse. Et comme le marché est bouché, c'est l'Union soviétique qui devient leur principal débouché. C'est la seule station que j'ai rencontrée qui a sa propre économie et qui génère des revenus avec sa production. Donc on reste dans des ambiances souvent très, très soviétiques. Voilà, donc là, travail aussi de pollinisation qui se fait manuellement. Ça, c'est une tomate sauvage qui est cultivée dans le sud de la Russie. Voilà, on stocke aussi une partie des graines de l'année dans la bibliothèque parce que c'est une des pièces qui est encore tempérée et qui n'est pas trop humide et qui est dans des conditions assez salubres. Une autre scientifique qui rentre des champs avec, avec des bouquets. Là, c'est le chou qui a apatiti, justement, qui a poussé au-delà du cercle polaire. Et Vavilov est toujours présent, toujours des images. Et voilà les conditions de travail. Là, c'est l'endroit où on a planté un certain nombre de cucurbitacées. Étude à un certain stade de croissance de la tomate, où la fleur est étudiée, la feuille est mesurée. Et c'est ce genre d'observations qui sont reportées dans des carnets d'année en année. Le travail qui se fait aussi de sélection des graines, c'est-à-dire que cette dame a 74 ans, elle a continué son travail parce qu'elle ne trouve pas de remplaçant. Là, elle travaille sur les salades. Donc elle récupère les graines de salade, elle a une pierre qu'elle m'a montré, qu'elle utilise depuis 40 ans pour écraser un peu les graines, pour la séparer en fait de l'enveloppe. Et après, poser dans un tamis, la séparation se fait en soufflant sur les graines pour séparer la graine de l'emballage. Donc ce n'est pas des technologies high-tech qui sont utilisées, mais tout ce travail est fait je dis jour après jour, d'année après année, en permanence. Voilà, donc ça c'est les graines de salade avant séchage. À Volgograd, dans la station de Volgograd, qui est l'ancienne Stalingrad. Voilà, le maïs aussi, hein, c'est pollinisation à la main. Ensuite, le grain est protégé par des petits isolateurs. Voilà, ça c'est une des banques de graines dans une station qui est un des duplicatas de Saint-Pétersbourg. Donc une fois que les graines sont récoltées, là il y a toute une collection de céréales et dans les bocaux en plastique, c'est des graines d'aiguillope qui sont conservées dans une station. Comme ça, les graines, il y a au minimum une double conservation dans la station et à Saint-Pétersbourg. Mais très souvent, les plantes sont régénérées dans deux stations. Donc il y a un duplicata, il y a un triplicata, je ne sais pas comment l'appeler, il y a une sauvegarde à triple dans deux stations et à Saint-Pétersbourg. Voilà le travail, voilà comment on se présente à la fin d'une récolte, les graines récoltées, identifiées, c'est noté sur les sachets. Là, c'est la collection d'aiguillopes à Astrakhan. Donc, 27 variétés d'aiguillopes. Ils ont aussi une grande collection de raisins. C'est 350 variétés de raisins dans la station, mais qui sont essentiellement des raisins du Sud-Caucase et un petit peu d'Asie mineure. Voilà, ça, c'est l'autre aspect aussi de l'accueil en Russie. Très souvent, quand on arrive, on est très très bien reçu. Et c'est des moments aussi où la confiance s'établit, où des discussions se passent. Voilà, une des endroits aussi qui étaient des endroits de discussion entre les scientifiques, avec des débats sur les cultures, sur les projets, sur les projections. Et ça, c'est le matériel qui est encore utilisé aujourd'hui dans les stations pour le battage, pour la récolte. C'est vraiment du matériel agricole des années 50. Voilà, quand on revient sur les fraises, donc voilà comment l'observation et l'étude des fraises est faite. Là, on est dans un autre endroit, c'est à près de Vladivostok, grande station aussi, qui travaille beaucoup sur la pomme de terre, pas mal sur les légumes, et qui, eux, ont la grande, grande collection de soja. C'est 4500 variétés de soja. Et le soja, par rapport aux fertilités des graines, il faut les planter à peu près tous les 4 ans pour la régénération. Et il y a une seule personne qui est responsable de cette collection et qui doit organiser tout le travail. Voilà, c'est une partie de la régénération du soja près de Vladivostok. Ah, ensuite, les grains sont mis dans les sachets, les étiquettes toujours d'identification. Et ça, c'est Yuri qui s'occupe qui est le responsable de la collection de soja. Et derrière, c'est une partie de la banque de soja. Ouais, c'est... Mon travail m'a amené dans des laboratoires de recherche, entre autres à l'université de Zurich. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même ambiance et les mêmes méthodes de travail. Là, vous voyez, là, c'est les isolateurs dans la station de make-up qu'ils ont dû réutiliser, qui sont tachés, qui sont en assez mauvais état. Et voilà, mais il faut des isolateurs, sinon la recherche ne sert plus à rien, quoi. Et ça, c'est les restes de laboratoires qui sont de nouveau des laboratoires qu'on pourrait retrouver dans les années 40-50.
Bonjour, j'ai bien observé en fait toutes les images et puis je salue quand même le travail des scientifiques russes, ex-soviétiques. Je pense qu'il y a effectivement des générations de connaissances qui sont enregistrées chez eux, peut-être d'une manière plus humaine que du côté occidental, enfin de notre côté à nous. Maintenant, je vois que l'aspect enfin, permaculturel avec la protection des sols et puis justement par rapport à sa viabilité n'est pas encore vraiment en application là-bas en Russie. Je n'ai pas vu de paillage de sol. On a vu les cultures de fraises sur butte. J'ai cru déceler quand même un sol qui n'était pas nu. Mais quelle est l'importance pour eux, en fait, justement, de préserver ces sols et, vis-à-vis, justement, de la conservation des graines?
Dans les stations de recherche, hein. Ouais. Bah pour eux, pour l'Institut Vavilov, la préservation des sols est une des choses importantes. C'est vrai que les techniques de paillage sont très très peu utilisées. Par contre, les apports, il y a parfois un petit apport d'engrais, mais il n'y a pas de pesticides. Et puis sinon, c'est des fumures et il y a des composts aussi. Mais je dirais les techniques de permaculture ne sont pas appliquées à l'échelle des stations pour l'instant. Que vous dire de plus ? Ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que les stations sont immenses. Hein. Par exemple, la station justement où il y a les fraises, c'est une station qui couvre à peu près 1700 hectares. Donc c'est vraiment des surfaces très très grandes, mais il y a une partie, peut-être qu'elles ne sont pas sur les images, mais à partir des céréales, on fait un broyage et toute la partie où sont cultivés les supports de greffe, les porte-greffes, c'est paillé et c'est uniquement du recyclage qui est fait avec les céréales locales et les champs de porte-greffes sont paillés. Oui. Mais on n'est pas dans la sophistication de la permaculture qu'on connaît aujourd'hui et qui se développe aujourd'hui dans certains pays. Oui.
D'autres questions ? Bonjour à la dame.
Bonjour. Tout d'abord, merci. C'est une vraie découverte. C'est très émouvant pour ma part. Moi, j'avais une question. Que pensez-vous, vous, de la capacité des graines qui sont enfermées au froid à Svalbard à repousser ? Enfin, quand on va les sortir, si un jour on les sort dans 20, 30, 50 ans, est-ce qu'elles vont encore avoir une capacité germinative ? Moi, on m'a appris que la graine, elle coévoluait avec son environnement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle pousse, comme vous l'avez si bien décrit, elle enregistre tout un tas de paramètres. J'ai jamais compris à quoi ça avait servi ou à quoi ça pourrait servir, ce truc. Pour moi, c'est... Donc je vous pose la question, vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, c'est un point de vue de photographe et pas de scientifique. Mais effectivement, c'est assez délicat. Moi, je pense que c'est un projet, je crois, un peu utopique. Je ne suis pas très certain non plus de la réalité de la base scientifique de Svalbard. Par contre, Svalbard a permis de sauver une partie de la banque de graines d'Alep qui était menacée par le bombardement, et il y avait des duplicatas qui étaient à Svalbard, qui ont pu être après redirigés sur le Liban et sur le Maroc. Par contre, c'est sûr que l'autre chose aussi qu'il faut dire par rapport à Svalbard, c'est qu'il n'y a que l'Institut qui a déposé des graines à Svalbard qui peut les reprendre. Moi, j'étais assez inquiet sur le fait que, comme c'était financé par des gouvernements et des grandes fondations ultralibérales, type Rockefeller, Bill Gates et compagnie, je me disais, mais c'est quand même assez délicat d'avoir tout ce potentiel génétique stocké dans un endroit qui est très high-tech, où il faut vraiment montrer patte blanche pour pouvoir entrer. Mais c'est vrai qu'il n'y a que l'Institut qui a déposé des graines qui peut les reprendre. Donc c'est quand même une garantie contre le pillage du potentiel génétique de ces plantes. L'autre chose, c'est vrai que c'est un peu un mystère, hein, parce que la plante, elle évolue avec son milieu, et on ne sait pas si une graine qui est restée pendant 50 ans dans un milieu stérile, au froid, congelé, tout à coup, on la sort, elle va se retrouver dans un terrain qui ne va pas du tout ressembler à celui dans lequel on l'a extraite. Donc soit ça marche, soit elle est perdue. C'est-à-dire que soit elle ne sera pas fertile, soit elle va donner autre chose, soit elle aura perdu certaines informations génétiques, ou elle aura d'autres informations génétiques. Et ça, personne ne peut le dire, en fait, aujourd'hui. Mais, d'un autre côté, c'est une petite garantie de plus quand il y a des catastrophes comme ce qui se fait passer en Syrie avec la banque de graines d'Alep. Et ce côté-là, ben, tant mieux, mais soyons prudents. Ben, ça coûte cher, hein. Pardon ? Ben non. Non, non, non.
Ben, un commentaire sur ce projet de Svalbard. En fait, il faut replacer le contexte de la biologie moléculaire et biologie synthétique, c'est-à-dire ce qui est conservé, ce ne sont pas des graines, ce sont des gènes. Et quand on dit, il faut distinguer banque de gènes et banque de graines. Banque de graines, c'est le vivant. Banque de gènes, il s'agit de la biologie high-tech, donc les OGM, tout le projet assez fou de biologie synthétique, qui est refabriqué du vivant à partir de briques, de modèles. On va parler de modélisation du vivant. Ce n'était pas le sens de ma question, c'était juste un complément. Ce qui me préoccupe, merci d'avoir fait ce voyage que j'aurais aimé faire de cet institut et toute la diaspora de centres de recherche autour. Ça pose effectivement le problème de la pérennité de ces structures. Comment est-ce qu'elles vont survivre ? Vous avez abordé aussi la question de la protection des centres géographiques d'origine de nos plantes alimentaires. Alors, vous parliez d'Alep. Il faut savoir qu'il y avait des centres de recherche sur les céréales sauvages, le petit épeautre, qui pousse dans toutes les régions steppiques. Quid de ce qui va rester après la guerre ? Et donc, ça pose la question d'une façon... ce qu'on voit en Russie, c'est effectivement, c'est problématique, mais il y a plein de centres géographiques et des centres de recherche qui posent la question de qui va s'en préoccuper. Et de quelle façon est-ce qu'on va s'en préoccuper ? Donc, je ne sais pas si vous avez des informations sur cet fameux Institut Vavilov, ou de quelle façon est-ce qu'on pourrait contribuer à initier au niveau des politiques, au niveau mondial, la FAO. Alors bon, c'est peut-être des grandes choses, mais arriver à avoir que ces instituts, dans leur dimension globalisante et surtout vivante, perdurent.
Oui, vaste question, mais c'est vrai que je pense que c'est une décision politique qui devrait se prendre plus qu'à l'échelle gouvernementale, presque au niveau international et mondial. Ça devrait être une vraie préoccupation mondiale. Et les difficultés de l'Institut Vavilov, on les retrouve à une petite échelle, même dans un pays comme la Suisse, d'où je viens. J'ai visité l'Institut de recherche agronomique de Changin, et même en Suisse, ils n'ont plus les moyens de régénérer les anciennes variétés de légumes. Parce qu'il y a des restructurations qui se passent au niveau gouvernemental et tout à coup on met en place des personnes qui sont dans une logique complètement ultra-libérale. Ça veut dire il faut qu'une agriculture comme la Suisse avec ses petites surfaces devienne concurrentielle, ce qui est impossible. Donc ça veut dire que sous le prétexte d'ouvrir des marchés, on sacrifie complètement des agricultures nationales. Ou alors on leur fait faire à peu près n'importe quoi. Et là j'ai appris, mais j'ai pas plus de renseignements qu'une banque de graines aussi en Italie est en train de péricliter complètement. On ne sait pas si elle va être achetée par Monsanto ou pas, ou complètement abandonner ses activités. Par contre, en Russie, le gouvernement, en septembre ou automne 2016, ont pris des nouvelles orientations sur les plans de l'économie qui vont des plans industriels, des plans des nouvelles technologies. Et entre autres, l'agriculture devient aussi un des éléments importants de la politique économique russe. Donc l'Institut Vavilov, qui avant dépendait du ministère de l'Agriculture, lorsqu'il donnait 10 roubles pour l'Institut Vavilov, il y en a un qui arrivait, il y en a 9 qui étaient détournés. À présent, l'Institut Vavilov peut gérer en fait le budget qui lui est attribué. Les conditions sont un tout petit peu meilleures. Quand il y a eu l'exposition internationale à Milan, la Russie était présente avec le pavillon, dans son pavillon avec l'Institut Vavilov. Moi, j'ai demandé à l'Institut Vavilov si ça avait été bénéfique pour eux et qu'est-ce qu'ils avaient retenu d'être l'invité d'honneur du pavillon russe. Ils m'ont dit on a eu une lettre de remerciement. Donc c'est vrai que cette préoccupation, elle est absente en fait du monde politique. Là, je vois aussi en Suisse dernièrement, il y a des orientations politiques qui ont été prises par le ministre d'économie qui vont à l'encontre complètement de la paysannerie et de la sauvegarde de cette biodiversité. Et ça, c'est un problème qui existe à l'échelle internationale. Et c'est vrai que là, je suis sur une autre piste aussi. En ce moment, en Yougoslavie, j'ai appris que Monsanto avait racheté une importante banque de graines à Belgrade. Parce que les gouvernements, c'est des pays où les difficultés sont réelles, hein, économiques. Mais il y a quand même des priorités. C'est que je pense que y a ce type d'investissement économique dans l'agriculture, dans la sauvegarde du patrimoine génétique des plantes, il est aussi important que l'éducation et la santé. Mais on a tendance à le mettre de côté parce qu'on est dans ce monde qui fonctionne que sur ce profit, y compris dans l'agriculture. Ça, c'est une des autres choses aussi que je me suis rendu compte, mais que vous le savez sans doute aussi, mais dans tous les voyages que je fais, je vois qu'en Suisse, un des pays les plus riches du monde, les paysans n'arrivent pas à survivre, ils s'endettent. En France, c'est la même chose. On va dans des pays plus pauvres, c'est la même chose. Je vais à Madagascar, dans un pays les plus pauvres du monde. Les paysans qui produisent nos produits alimentaires et qui vivent en fait sur les terres sont aussi les plus sous-alimentés, n'arrivent pas à vivre. Et on est sur une planète où les gens qui nous nourrissent n'arrivent pas à vivre, qu'ils soient dans un pays riche ou dans un pays pauvre.
Est-ce que je peux donner une petite réponse quand même ? Parce qu'en Rhône-Alpes, il y a le Conservatoire Régional Botanique Rhône-Alpes qui justement est soutenu par la métropole et la région et qui fait ce travail et qui le fait en lien aussi avec l'Institut Vavilov. Il propose à des jardiniers comme nous, amateurs, de faire ce travail de conservation des graines. Donc j'invite tout le monde à prendre contact avec lui parce que c'est effectivement un travail passionnant et qui est pour le moment soutenu. Et en France, il y en a quand même 5 ou 6 conservatoires de graines qui n'ont bien sûr pas l'ampleur de l'Institut Vavilov, mais c'est vraiment à soutenir. On adopte des graines et ils sont aussi exigeants après dans le rendu des graines. Voilà, donc c'est important.
Oui, bonjour, merci pour votre conférence. Moi, j'avais des petites questions par rapport à votre parcours. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ça. Vous avez parlé des jardins, mais du coup, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux jardins? Et puis, votre travail photographique, votre recherche, est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que c'est financé? Enfin, qu'est-ce qui fait le lien, en fait, entre tout ça?
Bon, il y a plusieurs questions. L'origine du travail, ce que j'ai dit au début, hein, c'est-à-dire que c'était cette exposition où on voulait faire un travail sur les jardins utopiques, et après c'est les lectures qui m'ont amené à... qui m'ont vraiment conduit quoi, vers toutes ces questions à la fois alimentaires, de biodiversité, d'agriculture, mais aussi de la relation entre l'homme et le végétal à travers différentes cultures et différentes époques. Ce que j'ai au début, quoi, tout le moment où l'homme devient sédentaire, il devient dépendant en fait de son savoir, et toute cette dépendance à devoir en fait générer sa propre alimentation a façonné beaucoup beaucoup nos cultures et nos façons, enfin les différentes cultures et une façon de penser. Et après, les lectures m'ont amené dans différents domaines. Hein. Rapidement, je travaille sur le jardin urbain au XXIe siècle, mais le jardin et le parc aussi, mais le jardin comme une pensée plutôt, expression d'une pensée d'un moment ou d'une époque. Je travaille sur les jardins des morts, le dernier jardin, qui est de nouveau, on retrouve le jardin dessiné un peu comme les premiers jardins primitifs qui étaient dessinés dans l'espace pour se protéger. C'est un peu le dernier carré de terre qu'on offre aux défunts, il est souvent fleuri. J'ai travaillé sur les jardins utopiques, les jardins familiaux, sur la relation entre la science et le végétal. Et tout ce projet, pourquoi ? Parce que je crois que c'est assez simple, hein. C'est quand même assez intéressant et nécessaire dans sa vie d'essayer de trouver du sens à ce qu'on fait. Donc c'est un peu une recherche de sens aussi qui m'a conduit à faire ce travail. Sur le financement, donc, je suis photographe indépendant depuis... presque depuis que je suis né, ça fait très longtemps. Donc je dépends d'aucun grand groupe financier, mais j'ai des soutiens de fondations. J'ai reçu un soutien d'une fondation, d'une banque en Suisse. J'ai reçu soutien de certaines villes, de la ville de Mérin, la ville de Renan, la ville de... puis de temps en temps un prix photographique. Et je fais des recherches avec Céline Musel, d'ailleurs, qui travaille avec moi sur les projets. Qui est ici, et on fait des recherches auprès de fondations pour avoir les moyens de développer les expositions et les ouvrages. Donc c'est un travail d'autoproduction essentiellement.
Et j'avais une dernière question que j'ai oublié de poser. Je voulais savoir aussi comment avait été reçu votre travail par l'Institut Vavilov.
Je crois que... Non, l'Institut Vavilov est extrêmement content de ce travail. C'est la première fois qu'un ouvrage photographique et un ouvrage est fait sur l'Institut Vavilov. Vavilov a publié beaucoup de livres, il y a beaucoup d'écrits. Peu ont été traduits, certains ont été traduits en anglais, peu en français. D'ailleurs, si jamais il y a un livre formidable qui s'appelle « Aux sources de notre nourriture » qui a été écrit par Naban, qui est un ethnobotaniste, ethno-agronome, libanais qui vit aux États-Unis et qui a écrit justement, qui a écrit la biographie de Vavilov, mais qui est une biographie comparée avec des voyages que lui a fait sur les traces de Vavilov. Et c'est un livre absolument formidable. J'ai même reçu une médaille de bronze, je crois, qui et où pour l'Institut Vavilov. Pour eux, je suis un peu comme un ambassadeur quand même, parce que je crois que en Suisse, un petit peu en France, avant que le livre existe, l'Institut était vraiment pas connu du tout. À présent, il est un tout petit peu connu, évidemment. Le livre s'est pas vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, mais c'est une petite graine qui est en train de germer. Oui.
Vous parlez de Suisse, de France, tout ça. C'est le domaine de la francophonie et il y a un endroit qui est intéressant pour la francophonie, c'est l'Afrique. Donc est-ce que vous avez des liens avec l'Afrique? Et puis d'autre part, côté, est-ce que vous savez comment ça se passe côté Asie? Par exemple la Chine qui doit certainement avoir de grosses, grosses recherches là-dessus. Est-ce que vous avez des informations de ce côté-là?
J'ai peu d'informations sur l'Afrique. Je suis allé à Madagascar uniquement. Par contre, pour revenir à Vavilov, Vavilov est allé en Éthiopie. Et Vavilov, dans son esprit, c'était aussi de dire on ne va pas dans un pays juste pour prendre. Il faut aussi donner et laisser quelque chose. Donc il a créé la première banque de graines en Éthiopie avec des agronomes éthiopiens, je crois que c'est entre 1920 et 1930, je n'ai pas la date précise en tête. Et l'Institut de pomologie au Kazakhstan de Djangeyev, c'est aussi sous l'impulsion de Vavilov que Djangeyev a créé cet institut. Donc il avait vraiment cette envie de développer partout. Parce qu'évidemment, la multiplication des banques de graines, c'est la garantie aussi de la sauvegarde, parce qu'il y a des guerres, il y a des catastrophes naturelles, et c'est sûr que plus il y a de centres de graines qui existent, et plus c'est une garantie en fait, de sauvegarde de cette biodiversité. Après, sur l'Afrique et la Chine qui était assez en retard au niveau des banques de graines, en 10 ans, je pense à présent en 20 ans, je crois qu'ils sont devenus la deuxième banque de graines mondiale au monde, dans l'importance des variétés qui sont dans leur collection. Je parlais avec des agronomes et des scientifiques russes, ils avaient des propositions des Chinois qui les payaient plus que les Américains pour aller travailler dans les banques de graines et les centres de recherche en Chine. Je crois que les Chinois à présent ont la plus grande variété de riz, je crois que c'est 125 000 variétés de riz dans leur banque de graines. Mais où la Chine, c'est, je pense, un des rares pays au monde qui fait des plans alimentaires sur 50 ans. Qu'est-ce qu'on aura besoin dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans? Et comme ils sont encore dépendants, même au niveau du riz, hein, ils importent encore du riz en Chine, évidemment, ils essayent d'avoir des terres dans des endroits où, comme en Afrique, hein, où par promesse ou par des coproductions particulières. Pardon? Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, mais sur l'Afrique, c'est, si j'arrive pour le prochain ouvrage, j'aimerais pas mal travailler sur la notion art et culture. Parce que il y a dans certaines régions d'Afrique, il y a des variétés de bananes, par exemple, qui sont encore cultivées, pas par rapport à leur aspect alimentaire, mais uniquement par rapport à leur aspect symbolique. Et c'est des bananes, des bananiers qui sont plantés à l'occasion d'une naissance ou d'un mariage ou d'une fête sacrificielle ou autre. Et en fait, c'est des variétés très, très, très anciennes. Dans les anciennes variétés de bananes, les grains à l'intérieur des bananes sont presque gros comme des pépins de raisin. Et ces variétés existent encore. Et c'est aussi très important de garder aussi justement ces cultures qui permettre de sauvegarder un certain type de variété de fruits ou de plantes.
Merci pour votre conférence. Moi, j'avais entendu parler de Vavilov par l'intermédiaire du film de Catherine Peix sur les origines de la pomme. J'en avais vaguement entendu parler avant, mais bon. La question, c'est, est-ce que vous avez eu l'occasion d'interviewer le réseau Semences Paysannes en France, qui fédère à peu près 90 associations qui travaillent soit sur la conservation et la multiplication dans notre environnement actuel d'un certain nombre de graines, je pense à des blés par exemple, d'autres dans des associations, ça va être le châtaignier, et il me semble que ce serait un travail intéressant que de le lier aussi avec l'Institut Vavilov quand on voit les collections extraordinaires qui sont conservées mais qu'il faut remettre dans notre environnement et notre climatologie actuelle.
Vous avez dit USAM?
Pardon?
C'est l'USAM qui fait ce travail de préservation?
Le réseau Semences Paysannes, le RSP, dont le siège est dans le Lot-et-Garonne, qui existe depuis 2003. Mais je peux vous donner des coordonnées. Je peux vous donner les coordonnées.
Ah oui, avec plaisir, avec plaisir.
Ben, parce oui, ça que sera... ça me paraît très intéressant de lier... de relier au moins ces organismes qui essaient de faire une conservation, on va dire, adaptée à la situation, et non pas des conservations, comme on le disait tout à l'heure, qui ne sont que des banques de gènes pour aller vers des biotechnologies et le bidouillage du vivant.
Bah merci du tuyau. Mais je dois vous dire que là, au départ, le projet s'appelait Voyage Vert et il y a eu le livre sur l'Institut Vavilov qui était presque une évidence de le faire. Et après Voyage Vert, l'autre projet que j'aurais, c'est de faire un travail sur les agricultures du monde jusqu'aux questions alimentaires. Et aussi sur comment le développement de la technologie agricole a modifié le développement des sociétés. Parce qu'on est encore dans une période où on peut trouver des formes d'agriculture préhistorique jusque dans les formes les plus absurdes de la technologie agricole et de l'élevage, avec les vaches hublots et toutes ces absurdités actuelles. Mais c'est noté le... Merci.
Oui, bonjour. Je viens juste de débarquer là, hein, mais je vous entends parler de semences paysannes.
Mauvaise note.
Est-ce que vous connaissez à l'ouest de Lyon là, un organisme qui s'appelle CRBA, je crois, qui... Vous en avez parlé déjà,
ouais.
Du CRBA.
C'est ça. Ouais. Oui. Oui, on a eu des contacts. Parce que j'ai fait une exposition, la première exposition de ce projet a eu lieu à Genève en 2016. Et une délégation est venue à l'exposition et on a eu des contacts à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'aurais une question quand même. Vous avez beaucoup parlé de la recherche au niveau de l'Institut Vavilov, mais à quoi sert-il d'autre? On a vu, vous nous avez parlé qu'il y avait des graines qui étaient, ou des greffes pour des arbres, mais est-ce qu'il y a réellement une dimension, on va dire, économique plus large pour l'Institut Vavilov?
Jusqu'à aujourd'hui, et je pense qu'elle va continuer, l'Institut Vavilov ne veut pas faire du commerce de son travail. Donc, parfois, il y a des échanges qui m'ont fait un petit peu peur, c'est-à-dire qu'ils ont reçu certains matériels techniques de séchage de plantes qui sont très très coûteux des Américains en échange de certaines variétés de blé qui étaient dans leur collection. Mais ils étaient à un stade où, s'ils n'avaient pas ce matériel, il y a des collections qui étaient menacées. Donc ils ont fait un échange, je ne sais pas sur combien de variétés ou pas. Lors de mon avant-dernier voyage aussi, j'ai assisté à une réunion qui était extrêmement tendue, mais... et où il y avait un certain malaise, j'ai pas pu comprendre tout ce qui se passait, mais des Hollandais qui sont quand même les pionniers dans la transformation des plantes et la modification génétique des plantes, y compris alimentaires, étaient là pour essayer d'avoir certaines variétés de fraises. Ben, c'est sûr que d'avoir une variété de fraises avec son potentiel génétique pour une société maraîchère qui est bien implantée et qui a tout un réseau de business, c'est des millions qui sont en jeu. Et pour ça, l'Institut Vavilov fait très, très, très attention. La station de Krims, qui est dans le business, c'est eux, en fait, qui contrôlent la production et qui contrôlent la vente et qui contrôlent aussi le développement des variétés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné ou ni vendu la connaissance à une société étrangère, extérieure. Et ils essayent de garder cette éthique, en fait. Mais c'est compliqué, hein, parce que les pressions sont grandes. Et je pense que c'est aussi compliqué parce que, en ce moment, l'Union soviétique est quand même aussi dans une tendance néolibérale, peut-être d'État, mais quand même néolibérale. Et ça devient, c'est un enjeu assez important pour eux. Pour l'instant, ils résistent. Merci.